RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h10, c'est RMC et c'est le week-end des experts. Merci d'être là. Nous attaquons notre deuxième partie dédiée aux animaux avec Laetitia Barlerin. Et puis juste après, ce sera l'automobile avec un grand rendez-vous dédié à l'auto tout à l'heure en compagnie de Jean-Luc Moreau. On reviendra sur le salon de Francfort qui a lieu tous les deux ans. Je vous le rappelle, en alternance avec le Mondial de Paris. C'est l'un des principaux salons internationaux. Il s'achèvera le 27 septembre prochain, mais Jean-Luc y est déjà allé. Et il nous dira un petit peu quelles ont été les tendances de ce salon. Voitures écologiques, les modèles électriques évidemment. Et puis aussi beaucoup de nouveautés hybrides, on en parlera avec Jean-Luc, mais aussi avec les meilleurs journalistes de la presse automobile française, à partir donc de 8h sur RMC, puis bien sûr toutes vos questions auto. Mais d'ici là, donc, on poursuit notre rendez-vous animaux avec Laetitia Barlerin. Ma chère Laetitia, on va évoquer pas mal de sujets encore une fois en ce dimanche matin. Tout à l'heure, on découvrira une histoire incroyable d'un auditeur qui a retrouvé son chat 2 ans après l'avoir perdu.
Oui.
C'est beau.
Ah oui, c'est beau.
Voilà.
On a aussi des histoires 10 ans après, mais bon, c'est plus rare, beaucoup plus rare. Mais justement, si vous avez des belles histoires à nous raconter concernant votre animal,
on est preneur.
Allez, on est preneur. On va vous mettre à l'honneur, à l'antenne.
Voilà. On fera un point juridique aussi sur la réglementation sur la chasse en France.
Et oui, c'est l'ouverture aujourd'hui. Alors, quels sont les droits des chasseurs? Où peuvent-ils chasser? Et où ne peuvent-ils pas chasser?
Quels sont leurs droits? Quels sont leurs devoirs aussi?
Voilà.
On verra ça tout à l'heure. On va parler aussi de l'intégration du chien en ville. Et il semblerait que Paris ne soit pas forcément la meilleure ville dans ce domaine.
Non, c'est vrai qu'elle montre pas l'exemple. Et on verra, un petit peu, on fera le point. Et puis, vous savez qu'aujourd'hui commence la 4e édition de la semaine du chien guide d'aveugle jusqu'à la dimanche prochain.
Oui.
Et à cette occasion, nous avons avec nous Joachim Romero, qui est président de l'école de chiens guides de Paris.
Bonjour Joachim.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors, votre école a 30, une trentaine d'années d'existence et a déjà formé 900 chiens guides, ce qui veut dire environ 50 chiens par an. Alors, hier à Buc, près de Paris, a été inauguré un nouveau centre d'élevage des futurs chiens guides. Car ce que l'on sait moins, on parle beaucoup de la formation du chien guide, mais la formation, ça commence aussi par la sélection des parents et aussi par le développement optimal des chiots depuis leur naissance. Alors, expliquez-nous pourquoi c'est si important.
C'est si important parce que ça va préparer ce chien justement à recevoir cette éducation dans les meilleures conditions, c'est-à-dire donner un chiot aux éducateurs, un chiot équilibré va forcément faciliter toute leur éducation qu'ils auront après un an.
Alors,
cette étape est vraiment fondamentale. Le chien se construit, le chien se développe. Tout ce développement comportemental se passe avant environ 16 semaines. Donc vous voyez que le temps était vraiment très court. Et pour optimiser cet élevage, pour lui donner un sens, il faut vraiment que nous soyons extrêmement vigilants à cette période-là.
Alors moi j'ai vu des petits, c'était des petits Golden Retrievers qui venaient de naître. Là, ils avaient 3 semaines. Quelles sont les races choisies et pourquoi ces races-là?
Alors il y a 2 races qui sont privilégiées, ce sont les retrievers et les bergers. Et en majorité, ce sont des retrievers, des labradors et des golden, quelques flatcoats.
Des bergers suisses aussi, j'ai vu, des bergers blancs.
Des bergers blancs, c'est vrai. Et puis, vous avez dû croiser 1 ou 2 petits bergers allemands.
Oui.
Ce sont des chiens qui ont beaucoup de qualité d'initiative, beaucoup de qualité d'équilibre émotionnel, parce qu'il y a de longues sélections depuis des décennies. Et puis, ce sont des chiens qui sont extrêmement sociables, très faciles à éduquer, très malléables.
Très intelligents?
Oui, très intelligents, parce que ils ont été, encore une fois, ils ont subi une grosse imprégnation de l'homme depuis des dizaines d'années. Les hommes les ont utilisés pour diverses causes. Et forcément, il y a des retombées sur les chiens actuels. Il y a dans les deux sens, d'ailleurs. Mais Beaucoup de chiens bergers allemands, labrador, golden, ce sont des chiens qui sont à la base équilibrés.
Alors, j'ai été voir hier donc ce nouveau centre d'élevage, j'ai été voir la pouponnière avec ces chiots. Alors, c'est marrant parce qu'on a vraiment l'impression de rentrer dans une crèche. Il y a de la musique douce, on a des jouets en peluche, on a même, vous savez, des suspensions mobiles au-dessus j'allais dire du landau, mais c'est même pas le landau, de l'endroit où sont les chiots. Plus loin, vous avez une cour de récré pour les bébés chiens avec plein d'objets. Pourquoi c'est si important tout ça, toutes ces stimulations?
Toutes ces stimulations sont très importantes, justement, parce que le temps est très très court pour que se réalisent les socialisations, les imprégnations. Nous avons un temps de environ, comme je vous l'avais dit, entre 14 et 16 semaines. Après, il sera beaucoup trop tard. On ne pourra plus réaliser de socialisation. Les chiens n'auront pas eu suffisamment de développement, ce qu'on appelle l'homéostasie sensorielle. Donc, il faut absolument que nous les mettions dans des conditions, elles ne sont pas forcément naturelles, mais optimales, pour qu'ils puissent découvrir tout ce qu'ils pourront rencontrer par la suite. Et tout ce que vous avez pu voir, ce sont des choses qui, par la suite, pourront être vues lorsqu'il sera chien guide. Donc il faut vraiment s'assurer, avec des protocoles de progression, ça c'est très important.
Oui, ils sont bien. Il y a vraiment beaucoup de professionnels autour d'eux mais ils s'y connaissent très bien. Moi, j'ai posé beaucoup de questions sur le comportement animal, bien sûr. Vous me connaissez, et ils sont vraiment à la pointe des dernières découvertes sur le comportement du chien, sur le développement comportemental du chien. C'est extraordinaire.
Oui, c'est fondamental parce que, comme vous le savez, c'est le travail qui va conditionner l'élevage, les reproducteurs. Donc en fonction des résultats que nous avons, donc c'est pour ça que je vous parle de protocole, est-ce que nous mettons les chiens le matin, l'après-midi, à quelle heure, après manger, en groupe, seul, individu, enfin, toutes ces annotations sont fondamentales pour justement connaître leur réaction, et ensuite pouvoir prendre ou ne pas prendre tel reproducteur ou tel autre reproducteur. Mais pour ce qui est du développement des chiots, il y a des phases auxquelles il ne faut absolument pas déroger, parce qu'elles sont fondamentales, elles sont constructives, c'est elles qui vont, entre guillemets, conditionner tout l'avenir du futur chien. Alors, qu'il soit chien ou qu'il soit chien guide, d'ailleurs.
Alors, à 3 mois, ils quittent la pouponnière, ils vont en famille d'accueil jusqu'à leur 1 an d'âge. Alors, là aussi, la famille d'accueil, qui est bénévole, a un rôle.
Oui. Alors, on va essayer de retarder ce moment de placement en famille d'accueil. On va essayer de le retarder de 2 ou 3 semaines. 3 mois et demi me paraît tout à fait mieux adapté que 2 mois et demi, de manière à leur permettre d'avoir un chien un tout petit peu plus grand, un tout petit peu plus développé, et surtout que ce chien ait déjà des bases. Parce que vous savez qu'on peut, à un chien à partir de 2 mois et demi, 3 mois, commencer à ce qu'il acquiert certains apprentissages. Et ces apprentissages, il vaut mieux qu'ils se passent avec nous plutôt qu'avec la famille d'accueil, et qu'elle ait beaucoup plus de facilité pour tout le développement. C'est-à-dire que la famille d'accueil, si on devait la résumer, c'est un lieu d'épanouissement. C'est un lieu d'épanouissement dans lequel nous lui donnons, où on va faire une éducation naturelle, fondamentale encore une fois, jusqu'à 6 mois. Et puis ensuite, c'est, on va dire, moins important, mais tout ce qui est apprentissage, une partie des apprentissages va se dérouler à l'école, et une deuxième partie va se passer, c'est ce qu'on appelle en fait la socialisation primaire et la socialisation secondaire. Et tout ça va se passer en famille d'accueil. Mmh. Vous savez, oui ?
Oui.
Non, mais merci beaucoup, Joachim. On a bien compris le concept.
Et la famille d'accueil, donc vous en recherchez beaucoup encore ?
C'est en permanence.
D'accord.
Ah oui.
Nous avons besoin de familles d'accueil en permanence.
Eh bien voilà, on passe un appel donc. Hein.
Oui, bien sûr, bien
Comment
sûr.
Comment peut-on vous contacter ? Est-ce que c'est facile ? Est-ce que vous conseillez, par exemple, ceux qui nous écoutent à vous contacter ?
Bien entendu, oui.
Alors, vous avez le site internet chienguideparis.fr concernant ben ceux bien sûr tous ceux qui sont sur, en région parisienne hein, si vous voulez devenir famille d'accueil. Alors c'est les portes ouvertes aussi cette semaine hein, si vous voulez aussi visiter l'école, mais vous avez aussi ben, d'autres écoles bien sûr en France hein, partout
oui,
en France.
Dit.
Merci beaucoup Joachim Romero, président de l'école des chiens guides de Paris.
Et toutes les écoles recherchent des familles d'accueil, bien sûr, attendent aussi vos dons, voilà, et toutes les aides qui peuvent, ben voilà, faire en sorte que plus de 50, en tout cas, on en a 50 qui sont données chaque année dans cette école, mais il y en a beaucoup plus en France, soient données à des personnes malvoyantes.
7h20, c'est RMC. On revient dans un instant, Laetitia, et on va évoquer l'intégration du chien en ville, une meilleure place pour le chien en ville. C'est à l'occasion d'une marche qui est organisée cet après-midi à Paris. On en parle dans un instant avec le docteur Serge Belet qui sera là et qui est vétérinaire. A tout de suite, c'était RMC, c'est le week-end des experts.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, 7h22, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux. Faut-il laisser davantage de place aux chiens en ville? C'est la question qu'on vous pose ce matin sur le site web d'RMC. C'est notre question RMC Wamise et vous pouvez y répondre sur rmc.fr. Et pour l'instant, nous avons 45% oui, trop de lieux leur sont interdits. Nous avons aussi non, pour des raisons de propreté à 32% et ils n'ont rien à faire en ville, 23% Laetitia.
Et alors quand je regarde sur wamis.fr, c'est vrai que là ce sont des internautes qui sont très chiens.
Bien sûr.
98% disent que oui, trop de lieux leur sont interdits en ville et non seulement à 2%. Et ils n'ont rien à faire en ville, 1% seulement. Voilà.
Très bien. On va parler justement maintenant du chien en ville, Laetitia, avec Serge Belet qui est avec nous, qui est vétérinaire. Et président du comité OCA pour la réhabilitation du chien en ville.
Voilà, Serge, bonjour.
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 Bonjour, merci de nous rejoindre. Alors, vous êtes président du comité OCA, donc cette association qui organise cet après-midi à Paris une marche, comme on dit, canicitoyenne, pour que le chien ait vraiment sa place en ville. Parce que c'est vrai qu'en matière d'intégration du chien en ville, Paris n'est pas vraiment un exemple et serait même la lanterne rouge, on va dire, par rapport à d'autres capitales.
Ben, Paris, d'abord, c'est la troisième marche canine citoyenne hein, que nous organisons. Et là, on se retrouve tous à 14h30 à la rotonde de la Villette. Hein, c'est 6-8 places de bataille Stalingrad dans le 19e. On espère beaucoup de monde avec beaucoup de chiens qui sont des chiens citoyens avec des maîtres citoyens. Et quand j'entendais là que dans le sondage, pas Wamise, mais l'autre sondage, il y a des gens qui disent que le chien n'a rien à faire en ville. Le chien est primordial. L'animal, une ville sans chien est une ville sans âme. L'animal est primordial, pas que pour avoir son petit chien. C'est un lien social, c'est un lien médical, c'est un soutien médical, c'est un lieu de conversation. C'est grâce au chien que l'on se rencontre. Les gens s'adressent par leur chien maintenant dans une ville citadine. Et surtout, de nombreuses personnes qui sont très solitaires, si elles n'avaient pas de chien, elles seraient seules au monde.
Serge, alors on vous entend pas très bien. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher d'une fenêtre où je pense qu'on a un petit problème de réseau? Ou alors parler bien en face de votre téléphone, s'il vous plaît.
Bon, oui. Et donc, on parlait de Paris qui est la lanterne rouge.
Alors,
Paris.
Serge, on vous entend pas. On va essayer de vous rappeler. Ça sera plus simple parce que là, vraiment, le son est pas bon. Mais nous avons un témoignage, Laetitia.
Oui.
Ce matin, nous avons Laurence avec nous.
Oh, mais
fidèle
oui,
auditrice d'RMC. Bonjour, Laurence.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à tous les auditeurs.
Bonjour, Laurence.
Alors, vous vouliez faire, vous, le lien entre les deux sujets qu'on est en train d'évoquer, les chiens guides d'aveugles, mais aussi la présence des chiens en ville.
Alors effectivement, donc pour les chiens guides d'aveugles, nous avons pu discuter avec la municipalité quant à une tolérance pour la détente de nos chiens,
hein,
qui portent un gilet chien guide d'aveugles en détente, parce on en avait un petit peu marre.
Vous êtes dans quelle ville hein?
Alors moi, je suis à Clermont-Ferrand.
D'accord. Et en détente, ça veut dire que bien entendu, les chiens guides d'aveugles ne travaillent pas quand même 24 heures sur 24. Il faut qu'ils décompressent, qu'ils soient en détente. Mais ça, c'est un problème. Parce que normalement, quand ils travaillent, ils sont acceptés partout. Hein, ça, c'est la loi. Mais c'est vrai qu'en détente, comment vous faites?
Alors, effectivement, ils sont acceptés partout, mais nous avons encore de gros, gros soucis dans les taxis et les chambres d'hôtes. Voilà. Mais par contre, effectivement, quand on les détend, puisqu'ils ont deux vies, la vie de travail et la vie de détente, eh bien, nous leur mettons un gilet, justement. Et à Clermont-Ferrand, nous avons cette tolérance pour pouvoir les détendre. Mais j'invite justement toutes les villes à créer des espaces pour les chiens, mais
malheureusement,
tout chien, hein,
oui.
Que ce soit de travail ou autre, avec des chiens citoyens, parce que la propreté est à effectivement conserver en ville. Donc, pareil, des espaces de toilettes hein, pour chiens peuvent être créés. Et ça, c'est génial. À Clermont-Ferrand, nous avons des canicites ou canisettes régulièrement nettoyées pour les chiens. Et je pense que ça manque cruellement dans les autres villes. Donc, je remercie vraiment ma ville et les associations Chien Guide d'Auvergne, justement, qui a pu dialoguer, instaurer un dialogue avec la municipalité. Et vraiment, j'invite toutes, par exemple, tous les maîtres chien guide ou d'autres travaillent à prendre contact avec leur municipalité et à sensibiliser quand on explique le travail du chien. Voilà. Donc c'est vrai, effectivement, c'est le lien que je voulais faire.
Merci beaucoup, Laurence.
Merci beaucoup, Laurence.
Pour ce témoignage. On revient dans un instant, Laetitia. On va essayer de retrouver Serge Bellet. Et puis, on va évoquer tout à l'heure un autre sujet. Hein. On fera un point juridique sur la réglementation sur la chasse en France qui ouvre ses portes.
On peut se demander quels sont les droits et les devoirs des chasseurs.
Et puis, une belle histoire tout à l'heure d'un auditeur qui a retrouvé son chat après deux ans après l'avoir perdu. C'est incroyable. La météo, les infos. Et on revient sur RMC. À tout de suite. Là, tiens, attention. Mais quel est ce chien? Serait-ce Apollon qui appelle Indy? Nous ne le saurons jamais. C'est la question flash maintenant, Laetitia. En moins de 2 minutes, vous vous engagez à répondre à la question de Patricia. On m'a donné 3 œufs de tortue de terre que j'ai placés en incubateur, mais rien n'a éclos, la tia. Comment l'expliquer?
Je me suis fait avoir. Ouais. C'est un peu ça, quoi.
L'incubateur, c'était le micro-ondes.
Alors,
les oreilles, je les sais trop longtemps.
Mollet, dur, à la coque. Non, il paraît que c'est bon, les autres tortues. Non, mais non, c'est interdit d'en manger.
Non, Laetitia, ne dites pas ça, s'il vous plaît.
Bon, alors d'abord, une chose. Les œufs de tortue, ce ne sont pas des œufs de poule. Quand on les prélève, si vous voulez les prélever quand ils ont été pondus, il ne faut pas les retourner, parce que alors là, direct, l'embryon meurt.
D'accord.
C'est pour ça qu'il faut mettre une croix sur le haut de l'œuf pour ne pas justement le retourner.
Ah oui.
Ensuite, l'incubateur, faut pas un incubateur pour œufs de poule où les œufs sont justement retournés. Mmh. Il faut un incubateur spécial pour œufs de reptiles. D'accord?
Ah oui, c'est ça.
Avec 28 à 30 degrés Celsius de température. Ensuite, il faut mirer les œufs. Pour voir s'ils sont fécondés ou pas. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'œufs qui ne sont pas fécondés.
Et oui.
Et oui. Et même la femelle peut pondre sans avoir vu un mâle. Ou peut pondre 2-3 ans après avoir vu un mâle, parce qu'elle garde le sperme.
D'accord.
La tortue.
Ah oui.
Et oui. Donc il faut mirer. Donc vous le mettez devant une source de lumière et vous regardez si on voit les vaisseaux sanguins. Sinon, vous pouvez aussi peser les œufs. Les œufs pèsent plus lourd quand il y a un embryon dedans. Donc, vous pouvez le faire. Et puis surtout, est-ce que c'est pas trop tôt? Parce qu'il faut attendre 2 à 3 mois après la ponte pour qu'on ait des petits.
Voilà.
Voilà, tout ça, voilà. Hein, faut bien s'y connaître quand même.
RMC, le week-end des experts. 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Et nous voilà repartis pour ce week-end des experts sur RMC. Merci d'être là. Le 32-16 à votre disposition, animaux@rmc.fr. Jusqu'à 8h, donc Laetitia m'accompagne. Et puis ensuite, on changera d'univers avec l'automobile et un spécial salon de Francfort tout à l'heure entre 9 et 10 avec Jean-Luc Moreau. Laetitia, avant d'évoquer l'ouverture de la chasse, quelles sont les règles, on va dire, juridiques liées à cette pratique. Avant aussi d'écouter une belle histoire d'un auditeur qui a retrouvé son chat 2 ans après l'avoir perdu. Avant tout cela, on va parler et on continue d'évoquer la place du chien dans la ville.
Dans la ville. Et nous sommes toujours avec le docteur Serge Bellet, vétérinaire et président du comité OCA, qui est une association qui lutte pour réhabiliter la présence du chien en ville. Alors Serge, vous allez répondre à ma question. Parce que vous n'avez pas répondu à ma question, n'est-ce pas?
Allez-y.
Bon, on peut se tutoyer parce qu'on se tutoie. Hein.
Ouais, ouais.
Donc et, Serge.
Et on espère Laetitia encore avec nous cette année à 14h30.
Voilà. Alors, Paris, c'est vrai que c'est la lanterne rouge en matière d'intégration du chien en ville.
Oui, Paris est la lanterne rouge de l'intégration du chien en ville et la lanterne rouge de toutes les capitales et malheureusement la lanterne rouge, y compris en France. Hein. Vous avez eu l'exemple de Clermont-Ferrand.
Et oui.
On a de nombreux exemples d'autres villes en France qui ont su intégrer le chien.
Et alors, comment on peut intégrer le chien en ville? Que font ces municipalités modèles, on va dire, pour que le chien soit bien en ville?
Ben, elles font tout simplement des équipements pour que le chien puisse vivre avec son maître. Le chien, pour qu'il se sociabilise, ben, il doit être lâché, il doit être en contact d'autres congénères. Si on interdit partout le chien en ville et qu'il doit être en laisse, il ne peut pas se sociabiliser. Donc, on ne demande pas grand-chose. On demande de nombreux parcs, en tout cas endroits, si ce n'est pas des parcs réservés aux chiens, qu'ils soient clos, qu'ils soient entretenus par les propriétaires de chiens. Et on va voir que quand on va mettre les chiens ensemble, ils vont aboyer ensemble, et ensuite ils vont moins aboyer, ils vont jouer, ils vont se sociabiliser, ils vont pouvoir courir, ils vont pouvoir s'ébattre. Ils vont surtout pouvoir faire aussi leurs besoins dans ces parcs réservés. Et s'ils font leurs besoins dans ces parcs réservés, ça sera plus propre dans les rues. Et quand on fait cette marche canine citoyenne, pourquoi canine citoyenne? C'est qu'on veut un maître citoyen, c'est-à-dire un maître qui respecte les autres. Et pour respecter les autres, eh ben, on ramasse les déjections. Et quand on ramasse les déjections, on fait admettre le chien en ville. Et le chien n'est plus un ennemi, n'est plus un intrus dans la ville. Ce que je disais tout à l'heure, a priori, vous m'entendiez mal, c'est qu'une ville sans chien est une ville sans âme.
Et oui, parce que... Bon, il y en a beaucoup qui disent « Ah non, mais pas de chien en ville, le chien est malheureux en ville. » Alors moi, je dis souvent, vous savez, en ville, on sort bien souvent le chien est plus heureux en ville qu'en jardin, parce que dans un jardin, on le laisse dans le jardin, on le sort pas, alors qu'en ville, on est obligé de le sortir, et du coup, il sort et il rencontre d'autres chiens.
Et la théorie, un chien, quand j'entends le sondage, un chien doit être en la campagne, absolument pas. C'est un petit peu le discours des Verts à l'époque de Contassaut à la mairie de Paris. Un chien peut être en ville et un chien pour être heureux, Laetitia a un petit chien, moi j'ai un gros chien, quand on les met les deux là ensemble, ils sont heureux, ils jouent ensemble, ils ne s'attaquent pas. Un chien pour être heureux, il doit avoir son maître, il doit pouvoir s'ébattre, il doit pouvoir sortir, il doit pouvoir aller dans des lieux différents et il doit rencontrer des congénères, il doit rencontrer des autres chiens. Si on le fait vivre en vase clos, c'est un chien, oui, malheureux.
Alors Serge, nous avons Pascal avec nous qui veut témoigner. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Bonjour Pascal.
On vous écoute.
Moi, ça, oui, je suis d'accord aussi, tout à fait. J'ai eu, moi, je sais que je vis à Paris.
Ah, vous vivez Et vous trouvez que... Oui, vous trouvez que Paris ne fait rien pour les chiens?
Paris fait très peu de choses pour les chiens. Je sais que j'ai un chien guide d'aveugle.
Oui.
Donc, je le promène quand il est en voie détente, toujours avec son petit brassard orange. Chien en détente, chien guide d'aveugle en détente. Et dans les jardins municipaux de la ville de Paris, je me fais souvent pincer par la vigile ou les jardiniers.
Ah oui.
Qui essayent de me mettre dehors. Je leur précise que c'est un chien guide que j'ai. Malheureusement, parce que c'est pas une joie d'avoir un chien, même si c'est un plaisir, on l'a, parce que malheureusement, on en a besoin. Mmh. Donc, c'est un chien qui a la possibilité, dû à mon handicap, d'avoir une vie un petit peu plus enrichissante que les autres chiens. Mais bon, ça coince toujours auprès des jardiniers.
Et oui. Ouais. Serge, c'est vrai qu'à Paris, il n'y a qu'un seul parc.
Seul parc canin qui a été ouvert dans le 14e. Oui. Là, j'en profite de dire qu'actuellement, il y a un vote participatif sur les prévisions des travaux de la ville de Paris, qui se finit d'ailleurs ce soir. Et j'invite tous les propriétaires de chiens à aller voter sur le projet de la création de 20 parcs, d'une vingtaine de parcs canins dans Paris. Ça serait une avancée, ça serait un progrès phénoménal et ça serait une petite victoire pour le comité OCA avec cette mission de Mon chien, ma ville et de montrer que le chien peut vivre en ville, que là actuellement on voit des enfants dès qu'ils voient un chien, quelle que soit sa taille, attention, les mamans disent attention, le chien est méchant, le chien peut mordre et tout. On n'a plus du tout ce contact humain, enfant, animal et je peux vous promettre que quand j'ai l'occasion de voyager, je vais dans différentes capitales et que je vois même dans certaines capitales près de la mer, des plages en plein dimanche réservées aux chiens, c'est quelque chose dont je peux rêver à Paris. Alors, on n'a pas de plage, mais je peux rêver qu'on ait des parcs. Et quand les chiens vont pouvoir s'ébattre, quand les chiens vont pouvoir jouer ensemble, quand les chiens vont avoir des endroits où ils vont pouvoir se sociabiliser. Je peux vous promettre que les chiens seront plus calmes en ville. Je peux vous promettre que des gens qui n'ont pas de chiens iront observer, iront voir ces parcs à chiens parce que c'est un plaisir de voir les chiens jouer ensemble et que ça permettra donc d'une part de sociabiliser les gens, les chiens, et d'autre part de faire accepter à tous ceux qui disent que l'animal n'a pas sa place en ville, que l'animal peut avoir sa place en ville, que le propriétaire, s'il respecte les autres qui ramassent ses déjections, tout le monde peut vivre ensemble et l'animal est primordial, l'animal est un lien social, médical absolument essentiel.
Alors, pour les Parisiens qui ont un chien, rendez-vous cet après-midi,
14h30,
rond-point de la Villette dans le 19e pour une marche. La rotonde de la Villette, pardon, pour une marche joyeuse, puis arriver aussi devant la mairie du 19e. Merci Serge.
Merci Serge.
Et c'est vrai. Et à tout à l'heure.
Et à tout à l'heure. Et c'est vrai que moi j'ai pu visiter Vienne, la ville, la capitale d'Autriche, il y a pas si longtemps, et j'étais très étonnée. Il y avait beaucoup de chiens tenus non pas avec un collier, mais avec un harnais. Tous avaient un harnais. Alors je pense qu'en Autriche, ils sont pas du tout pour les colliers. Les chiens ne tiraient pas sur le harnais, et il y avait dans Vienne, beaucoup de parcs canins où les chiens pouvaient être lâchés.
Parfait, merci beaucoup Serge. Laetitia, on va carrément changer de sujet maintenant pour évoquer la chasse. La chasse qui ouvre, j'allais dire ses portes, mais voilà.
En c'est tout l'ouverture cas, de la chasse,
est autorisée
bien sûr.
Depuis peu. Et on va en parler avec Maître Xavier Baquet qui est avec nous, notre avocat préféré, on peut le dire.
Bonjour à tous les deux.
Comment
bonjour,
ça va Maître?
Eh ben, ça va très très bien.
Très bien. Vous avez passé de bonnes vacances, la rentrée, tout ça.
Oui, et puis tout va très bien, tout va très bien.
Bon, alors je rappelle que vous êtes avocat à la Cour et avocat de la Fondation 30 millions d'amis. Alors, avec cette ouverture de la chasse, c'est vrai que les non-chasseurs qui vivent à la campagne ou même les citadins promeneurs du dimanche se demandent souvent où les chasseurs ont le droit de chasser et où ils ne peuvent pas tirer.
Oui, alors ça c'est un vaste sujet parce que il faut savoir que la réglementation de la chasse est faite par le Code de l'environnement. Donc, L420 et suivant du Code de l'environnement, mais pas que. C'est-à-dire que ça va dépendre aussi des arrêtés préfectoraux et des arrêtés municipaux. Voilà. Et donc, ces arrêtés préfectoraux et municipaux vont s'adresser aux associations de chasse qui sont agréées. Et ces associations vont avoir des terrains qui vont être, comment dirais-je, dédiés à la chasse. Ces terrains seront dédiés à la chasse parce que les propriétaires des dits terrains vont autoriser la chasse sur leur terrain. Et donc, tout ça va faire un agglomérat de terres sur lesquelles la chasse pourra avoir lieu. Alors maintenant, vous avez des propriétaires qui ne désirent pas que leur terrain fasse partie des terrains qui rentrent dans les territoires de chasse de l'association. Ceux-là doivent dire à la préfecture, nous ne voulons pas, il faut l'écrire, il faut demander.
Oui, parce que si on ne le dit pas, ils peuvent venir.
Exactement.
Voilà, c'est un accord tacite, comme
tout
on dit.
Tout à fait, et donc il ne suffira pas de mettre un petit panneau, comme on voit souvent, chasse interdite, territoire réservé, que sais-je encore. Si vous mettez ça sans préalablement informer la préfecture, et sans que la préfecture d'ailleurs vous ait répondu, eh bien les chasseurs pourront non seulement traverser votre terrain, mais chasser sur le terrain également.
Alors, et à combien des habitations? Parce qu'il y a quand même une distance.
Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. Alors, on dit parce que les textes sont pas aussi clairs, c'est l'article L422-10 du Code de l'environnement, qu'il ne faut pas être en action de chasse à 150 mètres des maisons. Mais en fait, c'est pas ça. C'est que vous ne pouvez pas, normalement, tirer en direction des habitations à 150 mètres de la dite habitation. C'est-à-dire que si je suis à 150 mètres d'une maison, je ne peux pas pointer mon arme en direction de la maison. Mais le texte ne veut pas dire qu'on ne peut pas chasser sur ce terrain qui est à 150 mètres de la maison.
C'est-à-dire dos à la maison.
Voilà. Donc, si vous voulez, le texte est assez ambigu là-dessus. Bon, en clair, il est évident que si vous êtes au milieu de nulle part, comme ça m'arrive dans le Perche, que vous êtes entouré de terrain et que vous voyez un chasseur qui pointe son fusil vers vous pour tirer un lapin, il est évident que là, il peut pas. Parce que le plomb, vous savez bien que le plomb peut arriver dans vos baies, dans vos vitrails, et sur vous-même ou sur vos animaux.
Et puis, il y a les ricochets aussi.
Exactement. Donc, il est de règle que les chasseurs ne tirent pas autour autour des habitations. Maintenant, ça arrive, hein, les accidents de chasse, il y en a tous les ans. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la règle des 150 mètres, qui est une règle qu'on entend communément, qu'on voit partout, qu'on lit partout, elle n'est pas forcément établie stricto sensu. C'est une position qui est défendable, mais le texte n'est pas très clair à ce niveau-là.
Oui, mais de toute façon, il y a des agents qui surveillent ces chasseurs quand ils sont trop près des habitations. Je pense que il y a quand même une surveillance qui est faite.
Oui, il y a les agents des eaux et forêts qui sont là,
de l'ONCF.
De l'ONCF, pardon, excusez-moi, oui, de l'ONCF qui sont là, mais ils sont, comme vous savez, ils sont pas nombreux non plus, les malheureux.
Oui.
Donc ils peuvent pas surveiller toutes les actions de chasse partout en France, hein. Je veux dire, c'est pratiquement impossible. Mais bon, on peut dire qu'en règle générale, ils font un très bon travail et qu'effectivement, ils sont là pour réguler et puis j'ai envie de dire éviter que les moutons noirs nanagissent, quoi, parce qu'il y en a comme partout. Hein.
Eh oui, bien sûr. Mais alors, juste une chose, si on met chasse réservée sur notre terrain, il faut quand même faire attention à ce que les animaux sauvages sur le terrain ne soient pas trop nombreux.
Ah ben,
c'est ça.
Alors chasse réservée, c'est aussi pareil. Si vous mettez chasse réservée et que vous n'avez pas indiqué l'état de votre territoire sur la chasse réservée,
oui.
L'association pourra très bien dire, écoutez, de chasse locale, pourra très bien dire chasse réservée ou pas. Nous, rien nous l'interdit, on passe. Alors, il y a deux droits qui s'entrechoquent. Il y a le droit de la chasse et le droit de la propriété privée.
Oui.
Donc à ce moment-là, on n'est plus tant sur une problématique d'action de chasse sur un terrain dit réservé dont il va falloir qu'on prouve qu'il est vraiment réservé, oui. Que sur une violation de propriété privée. Et
donc,
là, si effectivement vous désirez être belliqueux, vous allez pouvoir attaquer l'association de chasse, non pas sur l'action de chasse, mais sur la violation du domicile privé.
Et si le chien on promène son chien et puis accidentellement il est blessé par un chasseur,
oui.
Qui est responsable ? C'est le chasseur.
Alors, il ne faut pas que le chien soit en état de divagation.
Si le chien est encore sous
la voie du maître, comme on le dit, hein, toujours sous la voie de rappel. Alors le chien peut aller à 50 mètres, 100 mètres du maître, à partir du moment où il entend la voix. S'il n'est pas en état de divagation et qu'il se prend un plomb, ça sera possiblement une responsabilité du chasseur.
Mmh.
Ou du groupe de chasse.
Mmh.
Parce que voilà, bon. Si le chien est en état de divagation, c'est un chien qui est chez vous, vous ne vous en rendez pas compte, pardon, il s'échappe, il s'en va, eh bien, on peut arriver à des choses de responsabilité partagée.
Mmh.
Parce que, effectivement, le chien aura troublé lui-même la chasse, parce
qu'il
sera parti. Et puis, vous êtes censé être non seulement le propriétaire, mais le gardien de l'animal. Et vous n'avez pas fait votre travail.
D'accord. Merci maître pour
Merci.
Toutes ces précisions.
Merci beaucoup.
Maître
Merci
Xavier beaucoup. Baquet.
Et on va vous retrouver tous les mois pour faire un point sur
Avec
le droit
grand plaisir,
bien sûr, des animaux.
Un point juridique sur ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup d'évolutions.
Bien sûr.
Oui. Beaucoup d'évolutions.
Ouais.
Donc,
Merci maître.
Je serai ravi tous les mois.
Eh bien, c'était un plaisir partagé.
Merci.
À bientôt.
Bon dimanche.
Au revoir.
Laetitia, dans un instant, nous allons retrouver Philippe au téléphone qui a une belle histoire à nous raconter. Il avait perdu son chat. Et il a retrouvé 2 ans après l'avoir perdu.
Alors qu'il pensait ne jamais le revoir.
On en parle dans un instant. 32-16 et animaux@rmc.fr pour nous joindre à tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Voilà, 7h51, on va terminer ce rendez-vous animaux avec notre vidéo LOLCAT dans un instant. Une vidéo très 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 mignonne, très sympa, très touchante. Mais auparavant, c'est Philippe que nous accueillons. Bonjour Philippe.
Bonjour Laetitia, bonjour François.
Bonjour Philippe. Alors dites-nous un peu, qu'est-ce qui est arrivé à votre chat ?
Racontez-nous.
C'est une longue histoire, mais je vais essayer de résumer un petit peu.
Oui.
Parce que... oui.
Alors on avait recueilli une petite chatte très mignonne.
Oui.
On était à la campagne et puis les filles voulaient une petite chatte, donc on l'avait recueillie. Elle était venue... manger comme ça à la maison.
Ah, elle vous a choisi, elle aussi.
Elle nous a choisi, voilà. Et puis, ma femme, ma fille l'avaient emmenée chez le vétérinaire pour la faire tatouer.
Oui.
Bon, et la faire
stériliser.
Il y a beaucoup de chats qui se baladent dans le coin, il y a beaucoup de dodons, je vois, ici.
Oui.
Et puis, on a eu la bonne nouvelle de nous dire qu'elle était déjà enceinte.
Ah.
Et qu'on attendait des petits chatons.
Bon.
Donc, quelques temps plus tard, les petits chatons sont nés sous la maison, parce que c'est une maison sur pilotis, donc les chatons sont nés en dessous. Et puis, mes filles ont réussi à récupérer quelques jours. Ils tenaient plus en place de récupérer ces petits chats. Les a récupérés et on a mis toute la petite famille dans mon entrepôt. On leur a fait une petite maison en carton avec plein de couvertures. Tout le monde jouait, c'était extraordinaire.
Oui.
Donc tout ça a duré un an. Et au bout d'un an, la mère, qui voulait absolument sortir, elle faisait ses petites rondes de nuit, n'est jamais revenue.
Oui.
Donc on s'est retrouvé avec les petits chatons qui étaient bien élevés. Vraiment, elle les a élevés. C'était extraordinaire de les voir tous les jours, comment elle leur apprenait à être propre, à chasser les souris, etc. Mmh. Et puis un an plus tard, bah, pareil, on a perdu... Alors, il y avait deux chatons, un qu'on avait appelé Joe, et l'autre Kitty. Pourquoi Kitty? Parce qu'on nous avait dit que c'était une femelle.
Oui.
Et alors que c'était un mâle.
Oui.
Et dans l'imaginaire, c'est toujours pour nous une petite femelle. Et un jour, Kitty, en partant au travail, Joe, je l'ai retrouvé allongé sur la route. Il était écrasé.
Oui, ça arrive.
Voilà. Et non, excusez-moi, je me trompe. On était partis en vacances. Excusez-moi, ouais, parce que je suis un peu ému. On était partis en vacances. Il y avait une dame qui venait donner à manger aux deux chatons. Mm-hmm. Les rentrer et les sortir le soir. Et en rentrant, les deux chatons avaient disparu.
D'accord.
Un est revenu à moitié un petit peu écorché dans un sale état, voilà. Ouais, et Kitty disparu, on l'avait plus retrouvé. Donc on s'est dit bon bah les renards, une voiture.
Oui, écrasé, etc.
Voilà.
Et donc le temps passe. Et
Joe se fait écraser.
Mm-hmm.
Et
oui.
Donc on perd tous les chatons. Et puis le temps passe, j'ai dit bon, allez, plus de chats à la maison parce que ça
c'est réglé,
un traumatisme à la maison.
C'est sûr.
Et mercredi, je reçois un coup de fil de la SPA de Saintes. Très gentiment, qui me dit on a retrouvé votre chat Kitty. Donc au début, j'y croyais pas. C'était vraiment un truc, vous êtes sûr, c'est un chat noir et blanc. Si, c'est bien votre chat.
Et vous l'aviez pucé ou tatoué, Philippe?
Ah oui, ils étaient tatoués tous les deux.
Ah ben voilà, donc c'est pour ça qu'ils l'ont retrouvé, d'accord.
Tatoué, stérilisé. Mmh.
Et alors, comment se sont passées les retrouvailles?
Eh ben, disons qu'il disait rien. On l'a pris dans les bras, on l'a mis dans une petite cage, on l'a ramené à la maison.
Et il a retrouvé des choses qu'il avait... parce qu'il a grandi chez vous.
Il a grandi chez nous, ouais. Donc c'est pour ça que je me demandais, est-ce qu'il avait... Alors il a retrouvé l'endroit où il mangeait avant, où il faisait ses
Ah, il y était direct?
Ah, direct, oui.
Ah, ben voilà, donc
c'est fou,
il se souvenait.
Ouais. Et la dame de la SPA nous a dit, surtout, ne le sortez pas, parce que au moins pendant 15 jours...
Oui, qu'il réintègre en fait les lieux, d'accord.
Elle a raison.
Donc c'est vrai qu'il est vraiment très calme, il est vraiment gentil, il miaule jamais, vraiment adorable,
d'accord.
Il se laisse faire et tout... Mais on voit bien que ça le titille de sortir parce qu'il reste devant la porte-fenêtre.
Surtout si pendant 2 ans, justement, il avait ce rythme-là.
Oui.
Merci beaucoup, Philippe, pour cette petite anecdote. Merci beaucoup.
Merci. Alors, une grande caresse à Kitty.
Oui.
Et ce qui veut quand même dire que, voilà, l'identification des chats, c'est
capital.
Très important.
Regardez ça, 2 ans
et
après.
Et c'est même obligatoire.
Évidemment.
Bon, voilà. Et le rappeler. Ouais. 2 ans après, on a retrouvé Kitty, qui était, tenu pour décéder, et non.
Exactement.
Il avait fait sa petite vie.
Si vous avez une histoire similaire à celle de Philippe, une anecdote étonnante liée à votre animal de compagnie, n'hésitez pas à nous contacter 3216 ou animaux@rmc.fr. Laetitia, on termine avec notre vidéo LOLCAT de ce dimanche matin. Une vidéo toute mignonne.
Oh oui. C'est la relation entre un maître et son chien. Alors, le chien a fait une bêtise.
Oui.
Je ne sais pas ce qu'il a fait comme bêtise. En tout cas, le chien essaye de
c'est
se faire...
C'est un labrador, j'ai l'impression.
Non, c'est un braque.
C'est un braque ?
C'est un braque.
Ah tiens.
Et le chien essaye de se faire pardonner par son maître, mais d'une manière tellement tendre. Et c'est vrai que c'est mignon, quoi. On craque devant la... Parce que... En fin de compte, son maître craque aussi à la fin, parce que vu comment il lui demande pardon.
Voilà, en fait, c'est difficile à expliquer. Il faut voir la vidéo sur la page Facebook de Vos Animaux sur RMC. On vient de la mettre et vous cliquez sur j'aime, bien sûr, au passage. Laetitia, on sera là dimanche prochain.
Oui, je vous souhaite un très bon dimanche à tous. Je vous embrasse. C'est à dimanche prochain.
Avec une émission écourtée en raison du Grand Prix du Japon que vous pourrez suivre en direct et en intégralité.
Une heure d'émission.
Dans un instant, la météo, les infos. Et on revient avec Jean-Luc Moreau qui sera là. Salut Jean-Luc.
Bonjour monsieur. François, bonjour madame.
Il revient de Francfort et il ressemble à une saucisse. Je vous en dis pas plus. On va le retrouver dans un instant. À tout de suite.